radio-g.fr.
Il est 21h passé de quelques minutes. Éreinté, fourbu par une journée de travail qui n'offre d'autre répit que de pouvoir retourner chez vous, vous avez peut-être pris un taxi pour rentrer plus tôt et plus vite afin d'écouter votre émission favorite. Vous vous êtes peut-être aussi laissé aller à des confidences envers ce chauffeur qui est pour vous un inconnu. Mais qui vous dit que pour lui vous en êtes un d'inconnu? Vous êtes-vous jamais posé cette question? Eh bien, nous essaierons ce soir d'y remédier. Alors préparez-vous, glissez-vous dans vos charentaises. Si, si, il fait encore un peu froid. Prenez un verre, baissez l'intensité de la lumière. Posez-vous sur un canapé. Cette heure est à vous et nous ne vous souhaitons pas d'être dérangé par un voisin dérangé ou un coup de téléphone intempestif et familial. D'ailleurs, débranchez-le. Maintenant, vous êtes aux abonnés absents pour une juste cause, la vôtre. Et surtout, vous êtes toujours en France et vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Aujourd'hui, la fine équipe est au complet. Linda, Luc, Toups et votre serviteur zélé, Julien. Bonjour les amis.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Julien, bonsoir les amis. Bonne nuit les petits.
C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et qui entend vous sortir du noir. Maintenant, générique maestro.
Thank you.
Vous écoutiez Just a Little Communication, un morceau du guitariste hongrois de jazz Gábor Szabó, qui sera suivi par un autre en fin d'interview de notre invité du jour, enfin de la nuit. Au sommaire donc de cette émission qui entend vous sortir du noir, une interview d'Alexis Nolan, alias Mats, un auteur RST, c'est-à-dire romancier, scénariste et traducteur, qui vient nous parler du Tatoueur, une bande dessinée concoctée avec le dessinateur Attila Futaki chez Grand Angle. Linda nous parlera de Chester Himes et de son œuvre hors des sentiers battus du polar, propice ou pas à l'enfermement dans sa chronique Sueur froide. Luc ira plonger du côté de l'Empire du Soleil Levant en compagnie de l'écrivain Edogawa Rampo pour justifier pleinement le titre de sa chronique habituelle « On n'achève pas les classiques ». Enfin, nous débattrons du film du sud-coréen Bong Joon-ho, Parasite, sorti en 2019, Palme d'or du Festival de Cannes et disponible en DVD chez The Joker. Mais débutons par le Tatoueur de Mats et Futaki chez Grand Angle. L'histoire se déroule principalement de nuit à Paris. On suit les allées et venues d'un Hongrois dans la capitale. Il fuit quelque chose, un danger, mais on ne sait pas lequel. Puis, une nuit, il entame malgré lui une discussion avec un chauffeur de taxi. Ce dernier est d'origine hongroise. Hasard, les coïncidences troublent toujours. D'autant que le Tatoueur est aux aguets. C'est le moment choisi par nos deux auteurs pour nous plonger dans une sombre histoire à la limite du complotisme sur fond d'assassinat de personnalités politiques. Le Tatoueur est embarqué malgré lui dans un monde de violence et n'aura d'autre choix que d'user de cette même violence pour s'en sortir. La grande originalité de cette courte bande dessinée, seulement 48 pages, c'est bien son grand angle. Elle pose sa focale sur les chauffeurs de taxi qui sont les ancêtres de Google. Ils savent tout de vous, ils connaissent les déplacements de tout le monde et en déduisent leurs petits secrets. Enfin, ils sont une corporation soudée et unie pour un même but. Lequel ? Eh bien, il faut lire cet album pour le découvrir. Alors, on connaît Mats pour ses scénarios épurés du Tueur avec son comparse Jacquemin au dessin. 16 volumes déjà chez Casterman. On se rappelle qu'il a été à l'origine de l'aventure Rivage Casterman Noir, des adaptations de chez Rivage Noir en bande dessinée. Il est traducteur et romancier. On connaît peut-être un peu moins Attila Futaki, mais il faudrait plonger dans L'Ange de Budapest, sorti chez Glénat. Son dessin, lui, gagne à être connu. Dans cette bande dessinée essentiellement nocturne, l'auteur use sans en abuser de bichromie qu'il décline et donne à ses personnages un trait dur à l'art Darwin Cook pour ses adaptations de Parker, en moins anguleux, en plus souple. L'ensemble fait très comics. C'est un plaisir des yeux. Et le scénario vaut, lui, joliment le détour. Mais c'est l'heure de parler de tout ça avec Alexis Nolan, alias Mats, pour l'occasion. Bonjour Mats, qu'est-ce qui vous plaît dans l'écriture et dans toutes ses formes ?
La BD, c'est vraiment un amour de jeunesse, mais le roman, la littérature au sens large et les polars, c'est aussi une passion depuis très très longtemps. Donc oui, j'ai commencé en fait en écrivant en même temps une BD et un roman. Ça, c'était il y a très très longtemps maintenant, au début des années 90. J'ai publié le roman à l'époque, qui est ressorti il n'y a pas si longtemps chez Rivage Noir, qui s'appelle La Nuit du Vigile. Et puis des premières BD qui avaient déjà un fort parfum polar. Ma troisième BD, c'était le premier album du Tueur en 98, qui était un peu la manifestation de cet amour du polar. Ouais.
Pourquoi les personnages solitaires vous inspirent-ils autant ?
Ah, c'est vrai, c'est juste. En fait, je pense que le côté solitaire des personnages, c'est un produit dérivé du sujet qui m'intéresse le plus, qui est à la fois la question de la place de l'individu dans la société et la conscience en fait de chacun, de ce que font les hommes ou les femmes, enfin ce que font les gens et comment ils vivent avec ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment un thème récurrent. Je pense que c'est le thème fondamental étoile dans le tueur, mais c'est un thème qu'on retrouve un peu partout. Et à l'inverse, par exemple, le travailleur de la nuit, qui est la vie d'un personnage historique, qui est Alexandre Jacob, qui est lui le prototype de l'anti-héros, mais du cambrioleur avec des principes moraux extrêmement stricts. Voilà, donc il y a toujours cette composante-là, et c'est vrai que ces personnages-là sont souvent des solitaires, ou alors ils ont des associations assez ponctuelles, mais c'est vrai qu'il y a ce point commun en général. Mais c'est un point commun qu'on retrouve souvent dans les polars. Quand on voit les polars classiques, les Hammett, les Chandler, les James Cane, les personnages sont souvent en fait solitaires. Ils ont des associations ponctuelles, mais ils sont souvent trahis, tout le monde leur ment. Il y a quand même ça fait vraiment partie du polar, je pense. Dans Elroy, tout ça, c'est dans Thompson, c'est comme ça. Je crois qu'ils ont une solitude quasi métaphysique. Il y a une solitude métaphysique dans le polar. La façon dont le polar, dans le sens où il propose une vision de l'homme et de la société, il y a cette dimension effectivement d'une solitude métaphysique, comme un peu dans Kafka. Moi, je suis un grand lecteur et fan de Kafka. Kafka aussi, c'est dans le procès, dans le château, les personnages sont. Il y a une énorme solitude. D'ailleurs, Kafka, à un moment, on lui demande si il se sent seul, il dit oui, je suis seul comme Franz Kafka, comme si personne pouvait être plus seul que lui. Et je crois que ça fait vraiment écho à ça.
C'est qui le tueur et pourquoi cette vocation que j'appellerais écologique ?
Oui, alors c'est pas tant l'écologie que effectivement le contraste avec la ville et le contraste entre la nature et l'humanité que lui voit comme foncièrement corrompue et nocive. C'est vrai qu'il y a un côté retour aux sources, mais c'est aussi dans son esprit, je pense, il prend bien soin de préciser que c'est un pays qui n'a pas d'accord d'extradition avec la France. C'est aussi, il y a un côté mise à l'abri et sanctuaire dans la nature, dans le tueur. Oui, absolument. Il y a de toute façon le motif de l'eau qui est très très présent tout au long de la série, et il se choisit des totems qui sont des animaux sauvages. Donc ça fait partie effectivement de sa mythologie, si on peut dire.
Le tatoueur cherche à fuir une certaine violence, et ça nous semble vain. Un avis sur la question ?
Oui, alors ça c'est une figure extrêmement fréquente dans le polar. Le personnage qui aspire à la paix, c'est par exemple le cas dans Dave Robichaud, au début de la série de James Lee Burke. C'est un personnage qui est traumatisé et qui veut se tenir à l'écart de toute violence, mais que la violence poursuit et retrouve chez lui, et ça l'oblige à agir, et quand il agit très violemment. Je crois que c'est vraiment un truc assez fréquent dans le polar. C'est un ressort d'autant plus intéressant que, d'une part, il procure de l'action, et en plus, il informe beaucoup sur la personnalité de la psychologie du héros. Donc c'est quelque chose de très intéressant à utiliser. Ouais. C'est ce que j'ai fait aussi un peu dans Tango, où le personnage se cache et se fait profil bas et essaie de passer sous les radars et retrouver pour une nouvelle aventure ultra-violente, assez violente.
C'est quoi la genèse de cet album ?
La genèse de l'album, on s'est rencontrés avec Attila il y a quelques années à Bruxelles. On s'est tous les deux dit qu'on aimerait bien travailler l'un avec l'autre. Et puis un jour, il m'a appelé en me disant qu'il avait un contrat pour faire une série, un feuilleton dans un magazine en Hongrie, puisque Attila est hongrois et il vit en Hongrie, à raison de une page par semaine, et que ça commençait la semaine d'après. Donc on s'est mis instantanément au travail, et donc ça a été extrêmement spontané, et aussi une façon d'écrire un peu particulière, un peu nouvelle pour moi, puisque c'était vraiment dans un mode feuilletoniste où j'écrivais une page, puis une autre, puis une autre, et on était pratiquement en flux tendu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de correction, pas vraiment de retouche, pas vraiment d'aller-retour. Les pages sortaient très rapidement, une par une, chaque semaine, et puis en fait c'était assez marrant à faire comme ça, d'écrire semaine après semaine, et c'est sorti dans le magazine, ça a apparemment beaucoup plu aux gens là-bas, et puis nous on s'est dit que ce serait quand même dommage que ça sorte pas en album, donc voilà, le grand angle s'est positionné dessus, et puis on a pu retravailler la fin, faire une fin un peu plus moi qui me convenait mieux que la fin qui était à l'origine dans la partie, la version hongroise, et voilà, ça s'est fait vraiment d'une manière extrêmement fluide.
Mais enfin, pourquoi avoir choisi cette histoire autour des Yellow Cab, comme les appellent les New-Yorkais ?
Alors, ce chauffeur de taxi-là, il est... il m'a été inspiré par un vrai chauffeur de taxi hein, que j'ai pris une fois dans Paris et qui m'a tenu un discours extrêmement proche de celui qu'a le chauffeur dans la BD. C'est-à-dire que et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Hein, c'était assez flippant, mais c'était très intéressant dans le sens où il disait que les chauffeurs de taxi, en fait, s'ils mettaient en commun tout ce qu'ils savent sur tous les gens qui conduisent à gauche, à droite et tout ça, en fait, ils savent énormément de choses sur énormément de gens et ils pourraient causer des remous terribles. En exposant la vérité sur énormément de genres de choses cachées, secrètes. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant à exploiter narrativement. Ensuite, et puis en plus, moi, j'ai habité à un moment dans un quartier de Paris où il y avait, dans la rue, il y avait des bars, je sais pas comment on peut qualifier ça, et puis il y avait un club échangiste et tout ça. Et donc, quand je prenais le taxi pour rentrer chez moi, les chauffeurs présumaient parfois que j'allais là, et ils étaient pas du tout avares de confidences sur qui ils y avaient déposé la veille ou l'avant-veille, donc j'en ai appris de belles sur des gens dont on pourrait pas penser qu'ils vont dans ces endroits-là. Et donc, le tout dans le tout, je me suis dit que c'était vraiment intéressant, en fait, comme motif. Et puis après, il y a la structure du polar un peu classique avec les deux trames. Alors, dans les polars classiques, les deux trames qui, apparemment, n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, se rejoignent vers la fin pour la révélation finale. Mais là, en fait, elles se rejoignent dès le début. Donc, j'ai essayé de varier un peu sur la structure du polar habituel.
Il y a quoi de fascinant, le complot ?
En fait, je crois que la façon de les rendre crédibles, c'est que ça soit très proche de la vie quotidienne, en fait. Que ce soit très proche, je crois que c'est les complots qui marchent, c'est souvent comme ça. Soit c'est très proche de la vie quotidienne, ça fait appel à ce que les gens croient deviner. C'est pas forcément, à part les trucs complètement farfelus, avec, j'ai entendu là aux États-Unis, les rayons laser venus de l'espace pour mettre le feu à la forêt en Californie. Enfin bon, ça après, c'est autre chose, mais je crois qu'il y a un côté ancré dans la réalité, mais surtout ce qui est bien, ce qui plaît aux gens dans les théories du complot, c'est que ça fournit une explication, ça donne du sens en fait à ce qui se passe dans un monde où il n'y a pas du tout de sens, où il n'y a pas forcément de sens, il y a une juxtaposition de tas d'événements. Et pourtant, il y a un passage dans le tueur, dans un des derniers tueurs où je fais dire au tueur que la propagande, les manipulations, ça existe. Enfin, dans le monde, ça existe. Donc, on extrapole, on fait des théories du complot. Mais le problème des théories du complot, c'est qu'elles veulent expliquer tout en même temps, donner un sens général à tout. Et ça, c'est pas possible. En fait, c'est là où ça choque. Par contre, moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire du tatoueur, et ce que j'essaie de faire en tant que narrateur, en fait, c'est que la personne qui aura lu le tatoueur, la prochaine fois qu'elle prendra un taxi, elle verra peut-être pas son chauffeur taxi de la même façon. Comme dans la nuit du vigile, je pense que quand on va dans son parking et qu'on croise des vigiles, après on les voit pas exactement de la même façon. Voilà, c'est plus ça moi qui m'intéresse dans ce genre d'histoire.
Pouvez-vous nous parler d'Attila Futaki, votre comparse au dessin ?
Je trouve que c'est très vivant. Je trouve qu'il y a un côté, il y a une souplesse et un sens de l'épure. Et je trouve aussi qu'il y a un côté un peu poétique. Au début, par exemple, j'étais un petit peu sceptique, j'étais un peu perplexe avec les lampadaires qui ressemblent pas tellement aux lampadaires parisiens. Enfin, moi, je suis parisien, donc. Mais en fait, je trouve qu'il y a un côté poétique dans son dessin. Il y a quelque chose qu'on voit pas d'habitude et en même temps, c'est réaliste, mais il y a de la souplesse. Les personnages ont un petit peu de rondeur. Je trouve que c'est un mélange assez original, c'est un style personnel. Moi, je trouve que c'est ça qui est très important en fait. Hein. J'aime bien travailler avec des dessinateurs qui ont leur style à eux, qu'on peut pas mélanger avec, on peut pas confondre avec cinq autres dessinateurs. Et là, je trouve que Attila, c'est vraiment le cas. C'est un dessinateur vraiment talentueux avec son style à lui. Donc, mais c'est vrai que Darwin Cook, il y a un petit quelque chose. J'avais traduit un Parker de Darwin Cook en français. Et c'est vrai qu'alors il est encore plus épuré dans l'utilisation des bichromies et tout ça. Mais il y a un petit quelque chose dans l'atmosphère. Ouais. Oui, mais l'impression générale, c'est qu'il y a des chapitres bleus, des chapitres jaunes, des chapitres. C'est un peu plus stylisé, quoi.
Avec le recul, c'est quoi pour vous Rivage Casterman Noir ?
J'étais co-directeur, co-créateur et co-directeur avec François Guéris, qui lui était le directeur de Rivage Noir. Moi j'ai beaucoup aimé travailler là-dessus, travailler avec François Guérif. Je trouve qu'on a quand même fait sur les, je sais plus exactement combien, mais il y a 26 ou 27 albums, quelque chose comme ça, avant que la collection ne soit arrêtée. Je pense qu'on a fait quelques très très bons albums. Le Baru était vraiment très bien. Le Demeter a fait de très beaux albums. Je pense qu'on a fait quand même quelques très très bons albums, enfin plusieurs, une bonne partie. Là. Et donc non, c'était une très très belle expérience. C'est dommage qu'elle se soit arrêtée. Il y a énormément de lecteurs, vous savez, dans les dédicaces, dans les rencontres. Qui me demande pourquoi on s'arrête et pourquoi on recommence pas. Il y avait vraiment un style, je crois que c'était bien, mais moi j'ai beaucoup aimé les albums que j'ai fait chez eux, d'abord pour trois raisons là, pour chacun des trois albums. Le premier parce que c'était une adaptation de Thompson, qui est un peu mon idole dans le monde du polar, donc ça c'était vraiment une opportunité que je voulais pas laisser passer. Le deuxième album, c'était Adios Muchachos, tiré d'un roman que j'adore de Chavarria, l'écrivain cubain, et surtout que j'ai fait avec mon ami Paolo Bacilieri, qui est pour moi un génie du dessin de la bande dessinée. Donc ça c'était vraiment aussi, en plus on est allé ensemble voir Chavarria à Cuba, donc cet album là c'est vraiment pour moi, d'ailleurs c'est un de ceux que j'ai fait que je préfère nettement. Et puis le troisième, c'était le Dahlia Noir, que j'ai co-scénarisé avec David Fincher, donc les trois ont été des expériences formidables.
Enfin, sacro-sainte question. On écoute quoi comme musique maintenant ?
En fait, j'ai pensé à un truc un peu marrant, qui est un guitariste hongrois que j'aime beaucoup, qui a un titre qui s'appelle Breathing. Je sais pas si vous connaissez, c'est un de ses premiers albums en 1971. C'est un morceau qui a été écrit par Bobby Womack. C'est on peut dire du jazz funk. Je crois que ça peut s'appeler comme ça. Et c'est un guitariste hongrois qui a eu une très belle mais très courte carrière aux États-Unis dans le domaine du jazz funk. Et c'est un titre qui a été repris par George Benson et qui a eu un énorme succès quand il a été repris par George Benson. Mais la version originale, c'est sur l'album de Gabor Szabo, il s'appelle. Gabor Szabo, un drôle de nom. Brésil 1971, ouais. C'est un super album. Il y a un autre morceau, j'ai hésité avec un autre morceau qui s'appelle Just a Little Communication, mais qui est vachement plus long, mais qui est un peu plus funky. Enfin bon, voilà, j'ai hésité un peu entre les deux. Mais je me suis dit que c'était bien pour le tatoueur, un musicien hongrois. Et il y a une citation, au début de notre collaboration, je parlais avec Attila, et je lui disais que j'adorais Gabor Szabo, et il me disait qu'il en avait parlé avec Sarkozy Isolt, le tatoueur, qui disait que quelqu'un qui connaît et qui aime Gabor Szabo ne peut pas être totalement mauvais.
Vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM. Nous écoutions Breathe In 1971 de Gabor Szabo sur les conseils d'Alexis Nolet et son double absolument pas méphitique, Mads. On le remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de cette bande dessinée réalisée avec le dessinateur Attila Futaki chez Grand Angle, Le Tatoueur. Mais je ne sais pas si vous entendez cette petite musique annonciatrice de notre débat DVD de la quinzaine. Parasite de Bong Joon-ho, un film noir sorti en 2019, Palme d'Or à Cannes, et qui nous offre une variation malicieuse de la lutte des classes dans un huis clos. On écoute un petit extrait essentiellement musical, puis Luc nous explique un peu plus de quoi il est question.
Alors les amis, de quoi qu'il cause ce parasite de Bong Joon-ho ? Ben je m'en vais vous le raconter. La famille Ki, Ki-taek, jouée par Song Kang-ho, le père, Chung-suk, jouée par Chang Hyae-in, la mère, King Young, jouée par Park So-dam, la fille, et Ki-woo, Wook Sik-hoi, le fils, habitent dans des conditions insalubres, dirons-nous, dans un sous-sol, et survivent d'expédients en partie en pliant des boîtes de pizza. Il y a une scène d'anthologie d'inondation où les égouts ressortent par la cuvette des WC, je ne vous dis que ça. Un étudiant demande au fils Ki-woo, son ami, de le remplacer pour donner des cours d'anglais à une jeune fille, Da Hye, dont il est amoureux. Mais voilà, il faut un diplôme officiel aussi, la sœur de Ki-woo, Kim Young, plutôt doué dans les arts, va lui en fabriquer un faux. Grâce à ce sésame, Ki-woo va facilement se faire accepter par la richissime famille de Dai Hye. Vous le voyez bien le concept, hein, un jeune homme très pauvre qui pénètre dans l'univers des très très riches. Pour Bong Joon-ho, ce n'est pas encore suffisant. Comme la mère de Dai Hye pense que son fils est un petit génie du dessin, Ki-woo va faire entrer sa sœur, Ki-young, qu'il va présenter comme une célèbre art-thérapeute, comme professeur de dessin pour le petit garçon. Et de deux, ça y est, vous commencez à comprendre le titre Parasite. Et comme cette famille de manants, de sans-dents est prête à tout, un soir que le chauffeur de la maison raccompagne la sœur de Ki-woo, vous savez, la pseudo-art-thérapeute, et tente de la séduire, celle-ci va discrètement laisser sa culotte dans la voiture du chauffeur. La machine infernale continue sur sa lancée, le père furieux va virer le chauffeur, et que croyez-vous qu'il va arriver ? Eh bien, c'est le père qui va être embauché, toujours sur les conseils de Ki-woo. Et dans la famille Ki, maintenant, il faut demander la mère qui va entrer pour remplacer la gouvernante accusée d'être tuberculeuse. Fin de l'acte 1. Les parasites sont installés, ils vont prendre leurs aises et à l'occasion où la famille part en week-end, ils vont s'offrir une fiesta de derrière les fagots. Mais l'ancienne gouvernante surgit et veut pénétrer dans le bunker de la villa pour apporter de la nourriture à son mari, qu'elle cache là depuis plusieurs années. Résumé comme ça, on croirait une histoire de pieds nickelés. Mais l'ami Bong Joon-ho n'a pas l'intention de la jouer petit bras et de se coltiner un nanar de série B. Le cinéma, il connaît, ses gammes ont été plus que probantes. Le plus vieux Memories of Murder, le pseudo-nanar The Thing, le blockbusterisé Snowpiercer. Il a le budget et ça se voit. Bong Joon-ho est présenté comme le surdoué du cinéma mondial actuel et tout le monde s'accorde pour le dire. Pour Parasite, il n'a eu pas moins que la Palme d'Or à Cannes en 2019 et quand même 4 Oscars, ce qui n'était pas le moindre des défis à relever. Mais Parasite, est-ce bien raisonnable ?
Alors moi j'ai un double problème avec ce film. Le premier est que quand j'ai vu Lucky Strike, on m'a dit énormément, ah, si tu as aimé, parce que j'ai beaucoup aimé Lucky Strike, il faut absolument que tu vois Parasite, c'est dans la même veine, tu vas voir, c'est encore mieux, c'est très très bien. Donc forcément, il y a ce travail d'attente qui s'est fait, plus ou moins consciemment, et qui immanquablement est déçu. Hein, parce que, effectivement, c'est un bon film. Mais pour autant, moi, par exemple, j'ai préféré Lucky Strike. Et peu importe si c'est le style vraiment ou le contenu qui intéresse, qui intéresse pas, qui interpelle pas. Alors, je dis ça, et là vient mon deuxième problème, c'est que c'est incomparable. C'est-à-dire que Lucky Strike, je l'ai vu au cinéma. C'était un des derniers films que j'ai vu au cinéma. Là, j'ai vu ça dans ma chambre. Hein. Donc, c'est forcément pas la même chose. Et définitivement, j'aime le cinéma au cinéma. Donc, voilà, ça se pose là. Je peux pas avoir d'avis définitif par rapport à ça, enfin, en tout cas, d'avis réel. Ceci étant posé, sur le contenu lui-même, il y a effectivement cet affrontement entre les deux mondes, ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Alors, qu'est-ce que c'est réussir ? Là, visiblement, on est dans avoir plein de pognon, même si c'est en faisant des choses plus ou moins débiles, inintéressantes et absolument pas enrichissantes. Quitte à aussi avoir une vie assez futile, hein, parce que quand on voit autour de quoi tourne la vie de ceux qui sont dans cette fameuse maison d'architecte et qui sont pétés de thunes. Ceci dit, les autres, qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? Est-ce qu'ils ont des objectifs de vie réellement derrière ? Est-ce que l'argent n'est qu'un moyen ou est-ce que c'est détourné, encore une fois ? Bon. Une fois que ça s'est posé, moi, j'étais assez scotché par le moment où il y a donc ces dégâts des eaux, les montées des eaux et tous ces quartiers pauvres qui sont inondés et ces gens qui vivent. Moi j'ai appris ça là, hein, qu'il y avait plein de gens qui vivaient en sous-sol. Déjà c'est mortifère, le manque de lumière, les odeurs effectivement, parce que ça revient énormément dans le film. Je ne veux pas trop en parler parce que ça dévoilerait trop de choses. Mais en parlant d'odeur, on n'a que l'image. Mais on peut vraiment se projeter au moment où il y a la montée des eaux provoque une remontée des égouts. Et là, c'est absolument vomitif, j'allais dire. Parce qu'ils sont retournés, essaient de sauver des choses dans leur appartement. Et ces toilettes qui sont placées en surplomb dans la salle de bain déborde, ça gicle un jus marron, c'est absolument répugnant et ça projette vraiment, hein, c'est vraiment des jets. Et on voit la jeune fille qui ferme la lunette pour essayer de bloquer ça, elle s'assoit dessus, donc on est vraiment, on baigne dans entre la remontée des eaux, ils ont de l'eau jusqu'à la taille, ça se mélange à ce jus saumâtre et on voit par-dessous, ça passe quand même, on voit les giclées et ça passe quand même par-dessous la lunette. Et elle est là en train d'essayer de gérer un truc sur son téléphone portable en même temps alors qu'elle baigne là-dedans. Sous couvert d'être toujours avec un cynisme, une ironie, on va dire, un tantinet humoristique, c'est quand même assez scotchant.
Eh bien, ce film, oui, c'est un film avec un titre à la fois banal et sacrément accrocheur, parce qu'on se perd tout de suite en conjecture sur le sens singulier de l'absence de pluriel. Un film à la narration parfaite pour moi, car pleine de fausses pistes. Alors moi je les suis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? Je les suis un peu comme le gars qui veut bien croire l'incroyable, comme par exemple que Stevie Wonder puisse jouer au golf juste pour entendre la chute de l'histoire et bien sûr la visualiser, n'est-ce pas? Alors sans rien dévoiler du tout, la première fausse piste plante le décor d'un film plus ou moins léger et marrant à coup sûr, sur fond de critique de la société de consommation et critique de ce qui pourrait s'appeler le rêve sud-coréen, avec un père de famille loser magnifique et un début de film qui me fait surgir spontanément un certain nombre de questions comme « Qui sommes-nous » d'où venons-nous ? Et en attendant de savoir où nous allons, en sommes-nous vraiment rendus là ? À dépend du Wi-Fi, celui du voisin en plus, et de nos téléphones portables, pour quelque acte de nos vies que ce soit. Alors, je cite le loser pathétique. Nous sommes ici réunis pour célébrer nos téléphones portables ressuscités et rendre grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies. Ceci dit, certainement pas aussi bien qu'une lampelette de troisième génération. Savez-vous, chers amis auditeurs à l'oreille affûtée, qu'il existe une technologie française développée à l'Université de Paris-Saclay, facile à mettre en place, qui fonctionne du feu de Amon-Ra et qui permet la transmission de données par les ampoules LED ? Ah si, si, ça s'appelle le LiFi pour Light Fidelity. Ça marche 100 fois mieux que le Wi-Fi, zéro conséquence sur l'environnement, zéro installation d'antenne à tous les 5-10 ans, la lampe LED clignote 1 milliard de fois par seconde. Ce clignotement, invisible à l'œil nu, permet le code Morse, langage binaire qui tient une place centrale dans l'intrigue. Parce que là, toujours sans rien révéler, je dois quand même dire qu'il y a ce mystérieux personnage caché dans la cave chez les riches et que ce jeune homme se sert du Morse pour communiquer avec lui. Alors, une petite observation. Dans la nature, le pique-bœuf à bec rouge est un passereau qui passe une partie non négligeable de sa vie, son œuvre, sur le dos d'un gros protecteur de type buffle, éléphant ou rhinocéros. Parce que c'est la nature, on arrive à parler de partenariat gagnant-gagnant, de mode mixte ou d'intermutualité pour symboliser cette symbiose. Le pique-bœuf nettoie les plaies de son protecteur et le débarrasse de ses tiques. L'un fournit le garde-manger à l'autre qui le prévient du danger. Le plus grand de tous étant bien évidemment la présence humaine. Bon, on va plus souvent employer le terme de parasite quand on en vient à l'analyse des rapports humains. Il y en a même qui s'adressent à des grands enfants de grandes écoles en leur assurant que eux sont des dieux et que les autres sont des inutiles. Je trouve intéressant que la simple vision d'un thriller marrant, mais pas drôle, un thriller où l'évidence du parasitage est remise en cause toutes les 20 minutes, qui est le parasite de qui, vraiment ? Qui pose en passant un certain nombre de questions sur les modèles de société. Un thriller multi-oscarisé en février 2020, Palme dorée à Cannes en 2019, si vous voulez bien me permettre ces néologismes. Les dates sont intéressantes aussi. C'est un peu comme pour le 11 septembre 2001. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là, et tout le monde se souvient de la vie d'avant le mois de mars 2020. Mars, qui, en passant, est donc le dieu de la guerre dans la mythologie romaine, est le fameux mois de mars qui a mis la peur au goût du jour et à l'international depuis 13 mois maintenant. Bref, je trouve très intéressant qu'un simple film m'amène à poser le plus sérieusement du monde aux auditeurs de Radio G 101.5 et particulièrement à ceux de Calibre 58 la question de savoir, dites, vous avez entendu parler du Grand Reset au moins ? En tout cas, moi j'aime le cinéma. Par contre, en salle, j'adore le cinéma.
Alors, ce qui me surprend dans Parasite de Bong Joon-ho, c'est bien l'aspect malicieux du film. Cette ingéniosité à parodier un huis clos en inversant le procédé. Non pas que le réalisateur sud-coréen nous plonge dans un espace ouvert, mais à l'inverse de nombre de huis clos, les personnages plongent eux volontairement. Je m'explique. On connaît tous le huis clos, le meurtre en chambre close. Une maison imposante à l'écart de tout, des invités qui se retrouvent enfermés et une tension qui grandit avec meurtre à la clé et criminels à débusquer pendant que un à un les invités disparaissent pour des raisons diverses et variées. C'est peu ou prou le cas dans le magnifique Un cadavre au dessert, Murder by Death en anglais. C'est également le cas dans le non moins magnifique Cluedo. Notons au passage la présence dans ces deux films d'Helen Brennan. Ici, le réalisateur Bong Joon-ho fait le choix inverse. Ses personnages, les parasites du film, s'installent les uns après les autres dans une riche maison et se nourrissent sur la bête en éliminant ceux qu'ils considèrent comme des intrus. Ce déplacement de focale est pour moi très réussi. Et puis, il y a cette mise en abîme du huis clos, de l'enfermement et l'idée de répétition de l'histoire. Moi, ça me botte. Alors, peut-être que le tout peut apparaître trop lisse, mais il y a ce petit plus qui en fait pour moi un très bon film de genre. Un dernier mot, Linda et Luc ?
J'avoue, je suis passé à côté de Parasite. Je l'ai vu à sa sortie en même temps que tout le raffut et l'unanimisme médiatique qui était fait autour. Mais dans ces moments, quand il n'y a même pas débat, j'ai toujours comme un doute. J'ai toujours le réflexe de penser que cet unanimisme masque le vide. Parasite, les amis, est un film surfait qui dit tout dans son titre. On peut gloser longtemps qui sont les vrais parasites, mais c'est une discussion vaine. Pour moi, Parasite, c'est une coquille vide et prétentieuse. Ça vous étonne, hein ? C'est de l'ordre de l'exercice de style et Bong Joon-ho n'en a pas besoin. Il nous a déjà montré ce qu'il savait faire. Il n'y avait que ça à se mettre sous la dent en 2019. Il n'y avait que ce film qui méritait la Palme d'Or. Pourtant à Cannes, la même année, il y avait le bouleversant « Douleur et gloire » d'Almodovar, l'impressionnant « Roubaix, une lumière » de Desplechin et le dérangeant « Les Misérables » de Latchley, qui pour les deux derniers volent diablement plus haut quant au regard sur la société. Allez, t'inquiète Bong Joon, tu permets que je t'appelle Bong Joon ? Toi, la prochaine fois, tu pourras te rattraper.
Ah, moi je dis c'est un bon film. Donc, après, on s'en fiche qu'il soit coréen ou autre chose. C'est un bon film, donc oui, allez le voir.
Merci les amis. C'est maintenant l'heure de la chronique de Linda, Sueur froide. Un petit jingle et on part en compagnie de Chester Himes arpenter les pans de son œuvre de 20 ans.
Chester Himes, auteur noir américain, né en 1909 dans le Missouri et mort en Espagne où il avait élu domicile depuis les années 50, en 1984. Alors on connaît Chester Himes, quand on le connaît, pour ses romans policiers fameux, dont La Reine des Pommes, Il pleut des coups durs, Couché dans le pain ou Un broglio négro pour ne citer que. Et avec ses personnages d'inspecteurs non moins fameux, Ed Cercueil et Fossoyeur Jones. Et pourquoi que Chester Himes, il aurait écrit que des romans policiers ? Réponse A, il ne savait écrire que ça. Réponse B, les éditeurs lui auraient dit, t'es gentil, tu écris des trucs de noir avec des personnages noirs et tu restes à ta place. Alors, il y en a qui hésitent ? Ah ben oui, hein, c'est la réponse B. Bah, si. Dès les années 30, il écrit une perle de livres, lyrique et cru. Il met 20 ans à le faire publier. Et ce roman ne paraîtra dans son intégralité, j'allais dire dans son intégrité, qu'en 1998, c'est-à-dire après la mort de Chester Himes. C'est de ça que je parle. Des éditeurs qui n'acceptèrent son roman que dans une version élaguée par eux-mêmes, tronquée, dénaturée. Le titre de 1952, qu'on lui jette la première pierre, vendu comme un roman sur la brutalité de l'univers carcéral, le personnage principal serait noir. Le titre de 1998, Hier te fera pleurer. Traduction de 2002, de Daniel Lemoine. Version intégrale et fidèle à ce que Chester Himes souhaitait donner à lire. Hautement autobiographique, le personnage principal est blanc. Parce que la question n'est pas posée au bon endroit. Chester Himes nous traîne dans les remous de ses émotions. Parfois c'est beau et parfois c'est moche et ça pue. Mais l'écriture est toujours généreuse, affûtée et intransigeante. Pas de méchanceté, mais pas de pitié non plus pour lui-même. Analyse acerbe des errements d'un jeune homme, un gamin condamné à 20 ans de réclusion, enfermé 7, Jimmy Monroe, détenu numéro 57232. Alors, un livre sur l'enfermement, en ce moment, vous allez me dire, ça se pose là, j'avoue. Je dois même admettre qu'il m'a fallu une pause en cours de route pour respirer un peu de liberté. Enfin, de légèreté. Je sais pas ce qui me prend là. Après quelques Arsène Lupin, sans rire, Maurice Leblanc était vraiment doué pour les dialogues. C'est absolument savoureux. Bref. J'ai repris ma lecture et une dizaine de pages plus loin, une ouverture. de la lumière, de l'amour. De l'amour tendu et malmené, certes. De la vie, quoi. Parce que privés de liberté, privés de contact physique et affectif, privés d'amour, les hommes n'en sont que plus mesquins, haineux, hystériques. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas bienvenu chez les bisounours non plus. L'âpre lutte pour sauvegarder l'intégrité des corps n'est pas une affaire mineure. Je ne vous fais pas le détail des meurtres, viols et autres corruptions. Mais la torture n'est pas que physique. Et on suit le jeune Jimmy dans ses chevauchées mentales, y compris quand, parfois, la violence de la détresse ne se faisant plus supportable, le cerveau préfère disjoncter les circuits. Se sentir seul et privé de liberté rendrait fou. Allons donc.
Merci Linda pour ta chronique. L'ouvrage est disponible chez Rivage sous le titre « Qu'on lui jette la première pierre » et chez Gallimard en version intégrale, et ça s'appelle « Hier te fera pleurer ». Si vous êtes curieux, il est peut-être intéressant de lire les deux versions. Sinon, lisez la dernière. Mais j'aperçois Luc qui plisse les yeux. C'est l'heure de sa chronique, on n'achève pas les classiques. Et on n'achèvera sûrement pas Edogawa Rampo, maître incontesté du roman noir japonais. Luc, c'est à toi.
Les amis, vous reconnaissez l'origine de cette musique ? Elle vient de loin et pas du blues comme aurait dit un certain Johnny, non ? Elle ne vient pas du blues, mais du pays du soleil levant, le Japon. Ce monde semi-confiné me fatigue tellement que je saisis la moindre occasion pour m'évader. Y compris cette chronique que Julien a brillamment titrée « On n'achève pas les classiques ». Alors aujourd'hui au menu, Edogawa Rampo dans une petite perle de roman policier, La proie et l'ombre. L'idée même du roman est parfaitement machiavélique. Cela se résume assez bien. Tout d'abord, le narrateur et l'auteur lui-même, Edogawa Rampo. Au début du roman, il se décrit en auteur de roman policier et évoque un de ses concurrents, Shurei Ohe, lui aussi auteur de roman policier, mais dans une veine beaucoup plus perverse et malsaine. Le narrateur rencontre la belle Shizuku Oyamada dans un musée et il tombe sous son charme. Il commence une relation épistolaire qu'entre les lignes on devine sensuelle. Mais dans ses lettres, Shizuku Oyamada lui raconte aussi recevoir des lettres de menace de Ichiro Hirata, un étudiant qui la poursuivait de ses assiduités lorsqu'elle était étudiante. Au regard des menaces proférées par Ichiro Hirata, Edogawa Rampo soupçonne immédiatement son concurrent Shurei Ohe, dont il pense que c'est le pseudonyme qu'utilise Ichiro Hirata. L'affaire se complique lorsqu'une femme découvre le mari de Shizuku Oyamada, mort, au travers de la lunette d'un WC qui est installé sur un embarcadère au-dessus d'une rivière. Situation troublante, non ? Vous vous imaginez, vous, aller aux toilettes et faire cette découverte ? Et notre auteur va se transformer en enquêteur, projetant ses méthodes de romancier dans l'enquête policière, à la manière de son maître, Edgar Allan Poe. Novella, plus que roman, La proie et l'ombre a été écrit il y a près d'un siècle et n'a pas pris une ride. Le roman s'inscrit pourtant dans la forme du roman policier du début du XXe siècle. Un enquêteur seul résout une énigme en procédant beaucoup par déduction. À la même époque, Maurice Leblanc écrivait La comtesse de Cagliostro, Arthur Conan Doyle, Le gouffre de Marago, Agatha Christie, Le secret de Chimnez, où elle met en scène le superintendant Battle. Dashiell Hammett n'allait pas tarder à écrire son premier roman Red Harvest, Moisson rouge. Mais Edogawa Rampo va plus loin que ses coreligionnaires européens. Il y a du soufre dans son roman. L'intrigue par elle-même est diablement anxiogène. Ce coupable qui semble très loin, mais qui est présent en permanence. La résolution de l'énigme est particulièrement originale. On est habitué à ce que l'enquêteur, policier, privé, journaliste, triomphe même à la dernière page, même à la dernière ligne. Edogawa Rampo s'affranchit allègrement de cette convention. La modernité du roman tient aussi dans les mœurs du narrateur, appelons-le l'auteur lui-même. Il n'hésite pas à se lancer dans cette relation avec cette femme mariée sans que cela lui pose de problème. Et puis bien sûr, la modernité du roman, c'est l'érotisme. Un érotisme bien japonais, lui aussi, avec deux doigts de sadomasochisme. Les amateurs de cinéma japonais qui ont vu L'Empire des Sens comprendront de quoi je parle. Et comme si ça ne suffisait pas, il nous convoque, nous, lecteurs, dans ce jeu pervers, en usant des codes du voyeurisme. Edogawa Rampo a un art de l'écriture et une vraie légèreté de style. On est en terrain de connaissance, c'est bien le climat des années 1920 qui est brossé. Si ce n'était les noms des personnages, on pourrait parfaitement se croire dans l'Angleterre de ce début du XXe siècle. Il a vraiment bien appris sa leçon auprès de son maître Edgar Allan Poe, dont l'anagramme compose son nom en idéogramme japonais. La proie et l'ombre permet de comprendre que les transitions dans le genre ne se limitent pas à l'Europe ou à l'Amérique du Nord. Edogawa Rampo constitue un maillon de la chaîne, un maillon ô combien fort. Yukio Mishima, qui ne s'y est pas trompé, a d'ailleurs adapté un de ses romans, Le Lézard Noir, au théâtre. Le roman s'appelle La Proie et l'Ombre, il est de Edogawa Rampo, il est publié aux indispensables éditions Philippe Piquier avec une petite nouvelle d'une mécanique d'horlogerie irréprochable en complément, le test psychologique. Le tout est à consommer sans modération. Et avec ça, vous reprendrez bien un petit coup de coteau ?
Merci Luc pour cette évasion en lointaine contrée avec fond musical. Le roman est malheureusement indisponible. Aussi, précipitez-vous chez votre bouquiniste préféré, si vous êtes pressé, ou attendez une réédition chez Philippe Piquier, réédition qui ne saurait tarder, car l'éditeur le republie régulièrement. Je vous invite à aller voir sur le site de Brissac Loire-Aubance l'actualité concernant Polarisez-vous, l'année du polar. Les dernières décisions gouvernementales ont un peu tout chamboulé, comme d'habitude. Ce qui n'est pas chamboulé, c'est notre jeu La main dans le Brissac. Le tournage des vidéos n'est pas encore terminé, mais on s'amuse toujours aussi bien et l'enquête progresse à grands pas. Rendez-vous sur notre page Facebook. De nombreux livres à gagner. Cette quinzaine, nous recevions Alexis Nolan, ou Mats, ou les deux, pour Le Tatoueur, une bande dessinée publiée chez Grand Angle avec le dessinateur hongrois Attila Futaki. Luc nous a causé de La Proie et l'Ombre de Edogawa Rampo chez Philippe Piquet. On a longuement débattu autour de Parasite de Bong Joon-ho chez The Joker, un huis clos surprenant. Enfin, moi, je le trouve surprenant. Enfin, Linda a abordé la vie de Chester Himes, ce diable d'auteur américain, pour « Hier te fera pleurer » chez Gallimard. Et c'est déjà terminé. Pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses, le site de Radio G et sa page dédiée à notre émission, et la page Facebook Calibre 58. On vous dit à dans 15 jours, et on vous laisse avec nos amis imaginaires. D'ici là, portez-vous bien. Salut Luc, salut Linda, salut Toups, et encore merci.
C'est déjà fini. Bon, alors, au revoir les amis.
Au revoir Julien, au revoir à tous, et puis à bientôt, pour de vrai, j'espère.
Au revoir Julien. Au revoir les amis.
Radio G 101.5 FM.
Danse seul, seul avec toi.
Seul, ah.
Danse seul, ne suffit pas.
Non, non.
Danse seul, seul avec toi.
Seul, ah.
Danse seul, ne suffit pas.
Non, non.